je réponds aux questions. Dans quelle mesure peut-on parler d'un jugement dans l'ordre de la sensation ? Aristote le fait au sujet du sens commun, qui est dit rendre conscient de la sensation, discernerait entre les sensibles, sentir la différence entre ceci ainsi que l'énoncé et même la pensée. Je sais bien que c'est un passage très difficile où il y a de fait le crinène. Donc je relis pour que vous voyez bien. Dans quelle mesure peut-on parler d'un jugement dans l'ordre de la sensation ? Au sens strict, il n'y a pas de jugement. Au sens strict, on va dire qu'un jugement. Mais Aristote le fait au sujet du sens commun. Alors il le fait au sujet du sens commun parce qu'il voit justement les comparaisons qu'il peut y avoir. Qui dit rendre consciente la sensation. Il rend consciente la sensation et permet à la sensation, aux diverses sensations, de se comparer, de faire donc une harmonie. Donc, discerner entre les sensibles, sentir la différence entre ceux-ci, ainsi que l'énoncé et même la pensée. Oui, c'est très délicat, ça. Ce passage est difficile à interpréter. Alors, je crois qu'il faut l'interpréter d'une façon générale, comme toujours, quand il s'agit de passages comme ça, qui peuvent être des passages très raccourcis, parce qu'il est évident qu'Aristote ne cesse de voir des analogies entre le domaine du sens, des sens et de la connaissance, de l'intelligence. Bon. Je reviendrai sur les sensations tout à l'heure. La sensation, sens commun. Il y a des analogies constantes avec le point de vue du nous. Dès le début, on est dans l'ordre de la connaissance. Comprenez bien. On est dans l'ordre de la connaissance. Parce qu'on est dans l'ordre de la connaissance, on peut faire des analogies entre le mode de connaissance sensible et le mode de connaissance intellectuel. Qu'est-ce qui pour nous est premièrement connu ? C'est évidemment la sensation pour Aristote. Mais en même temps, la sensation n'est pas ce qu'il y a de mieux connu. Ce qu'il y a de plus connu, c'est le nous, c'est penser. C'est pour ça que Descartes dit cogito. Aristote dit sentir. Quand Descartes dit je pense, Aristote dit je vois. On ne va pas l'oublier. Pour Aristote, on va dire je pense en premier lieu, mais je vois. C'est comme ça qu'il, par la sensation, Aristote montre qu'il y a une connaissance spéculative dont le but est la recherche de la vérité. Parce qu'il y a de la joie à voir. Donc c'est significatif. Alors, exactement comme dans le nous, il le dira du reste au nous. Le nous aura deux opérations, nous verrons. N'y a-t-il pas quelque chose d'analogue ici ? Une sensation, c'est le contact direct avec les sensibles propres. Le sens commun, c'est la conscience des sensations, c'est-à-dire c'est une connaissance seconde. Le sens commun ne nous donne aucun contact direct avec la réalité. Aucun. Le contact direct avec la réalité, c'est les sensations. Mais le sens commun va doubler les sensations, comme si la sensation, dans ce qu'elle avait de tout à fait simple, n'est pas suffisante. Elle est diverse et une, et c'est du reste pour ça qu'il faut nécessairement quelque chose qui fait l'unité au milieu de la diversité. Et la diversité, il y a l'unité. Et le sens commun fait cette unité. Et en même temps, pour que la sensation soit parfaitement sensation, il faut le sens commun. Donc, c'est comme une doublure de la sensation, si j'ose dire, vous voyez. Sensation au carré. Sensation au carré. Alors, par le fait même, il y a quelque chose d'analogue dans le sens commun, l'analogue au jugement. Il ne faut pas le prendre au sens rigoureux, il faut le prendre comme analogiquement. Alors, à ce moment-là, ça devient intelligible.
Oui, le sens commun joue dans le rôle de la sensation, par rapport à la sensation, un rôle analogue à ce que j'ai dans l'ordre de la connaissance intellectuelle, où je fais le discernement, la conscience, discerner, et je sens, j'énonce. Vous voyez ? Il y a quelque chose d'analogue, et je crois ça, car ça veut nous faire comprendre. Parce qu'il développe très peu le sens commun, mais il le développe quand même, il l'affirme. Alors moi, je traduirais de cette manière que le sens commun permet à la sensation d'être consciente. Quand il s'agit de du nous, la pensée est par elle-même consciente. Je n'ai pas besoin d'un autre acte. Il y a une auto-lucidité de la pensée parce que la pensée n'a pas d'organe physique. N'ayant pas d'organe physique, je peux être lucide immédiatement, je pense. Et je suis lucide dans la pensée. Tandis quand il s'agit de la sensation, puisque la sensation a un organe physique, elle ne peut pas être par elle-même consciente. Il faut une autre faculté qui rend consciente la sensation. Donc, une autre faculté qui double la sensation. C'est le sens commun. Qui donc permet la conscience, qui permet le discernement, la comparaison. Et je discerne que là, c'est des analogies entre la vision et le goût. Enfin, le souvenir de la Madeleine, il ne faut pas l'oublier, des discernements comme ça qui font des parallélismes entre les diverses sensations. Et alors, ça fait partie de ce discernement. En même temps, ça sent avec une acuité plus grande. Donc, sentir la différence entre ceci ainsi que l'énoncé. Alors, en réalité, c'est pas le sens commun qui l'énonce et qui le pense, mais la pensée sera présente au sens commun pour l'énoncer, le penser. C'est comme ça que je dis. Autrement dit, quand il s'agit de la connaissance, vous voyez, il y a la connaissance de la pensée n'a pas de lieu, donc elle est immédiatement lucide. La sensation a un lieu. Il y a un lieu du toucher. Il y a un lieu de la vision. Il faut un second sens pour la rendre consciente et pour expliquer le discernement. Donc, le sens commun joue au niveau de la connaissance sensible le rôle exact du discernement et du jugement dans le domaine de la pensée intellectuelle. Oui. Oui.
Est-ce qu'il peut y avoir un lieu au sens commun ?
Oui, il y a un lieu au sens commun. Pour Aristote, il y a un lieu. Mais lequel ? je crois pas qu'il précise le lieu du sens commun. Je crois pas. Mais il y a un lieu, puisque c'est une sensation. Le sens commun est une sensation, c'est pas. Le sens commun n'est pas comme pour le père Garrigou Lagrange et comme pour Descartes, parce que là, le père Garrigou Lagrange et Descartes sont ensemble. C'est ce qui est reparti le plus à l'espèce humaine, le sens commun. Alors, on sait très bien que c'est pas vrai. Ce que Descartes dit et ce que Bergaret nous dit. Le sens commun, c'est pas ce qu'on appelle habituellement le sens commun, vous voyez, avoir du bon sens. Oui. La philosophie du bon sens. Là, c'est la philosophie Razmot, qui ne doit pas, au niveau des pâquerettes, pas être haut, hein. Surtout pas, ne vous envolez pas, restez là tout proche. Hein. Là, vous êtes à ce niveau-là. Ça, c'est du bon sens, avoir du bon sens. Alors moi, j'ai du bon sens, j'ai deux pieds sur terre. Quand vous commencez vos spéculations, oh non, alors là, vraiment, non. Hein. Alors, vous voyez, ça, non, c'est la philosophie du bon sens. C'est pas ça le sens commun pour Aristote. Le sens commun pour Aristote, c'est tout à fait différent. C'est, de fait, une sensation qui présuppose les autres sensations et qui vient après. Et qui les unit, qui fait le lien entre les cinq. Et donc permet des sensations. Et c'est comme ça que je permets de dire qu'il y a comme un sens au carré. Donc l'analogue, si vous voulez, au discernement, l'analogue à la sensation. Oui.
Il y a un rapport avec les sensibles communs. Est-ce qu'on peut établir un rapport sens commun, sensible commun ?
Sens commun et sensible. Faisons attention, le sens commun est une faculté.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que les sensibles communs sont l'objet du sens commun ?
Ah non, non, non. Ah non, pas du tout. Non, non, je crois pas. Je crois pas. On pourrait se poser la question. On va la poser après. On va se la poser après. Mais c'était d'abord pour répondre ça directement. Alors, on va revenir sur cette question-là. Pourriez-vous revenir quelques instants sur les différentes causalités dans la sensation? Oui, j'y reviens tout de suite pour bien analyser la sensation. Et puis alors, par nos cinq sens, nous acceptons la réalité, captons la réalité qui va nourrir notre intelligence. Mais n'y a-t-il pas deux moments, réception et émission? C'est l'analyse de la sensation que nous allons faire rapidement pour que nous voyons bien. Alors prenons la vision pour que ce soit quelque chose de plus précis. Je pars de la vision, j'ai conscience de voir. Je vous vois. J'ai conscience de voir. J'ai conscience de fermer les yeux et de ne plus voir. Donc j'ai conscience que les fenêtres soient ouvertes et que les fenêtres soient fermées. J'ai conscience de la vision. J'analyse cette vision. Cette vision est une opération vitale qui implique une certaine connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire connaissance? Ça veut dire que l'autre est assimilé. L'autre est présent au plus intime de moi-même. L'autre, puisque c'est la vision, prenez la couleur, prenez tout simplement le rouge. L'écarlate rouge de la fleur est présent dans ma connaissance. Je vois le rouge. Je ne vois pas rouge, mais je vois le rouge. Alors, je vois le rouge. Le rouge est présent dans ma vision. Elle est présente dans ma vision. Cette présence du rouge dans la vision est présente de telle manière que la réalité n'est pas altérée, mais je suis moi modifié. Alors, c'est pour cela que je parlerai déjà de forme intentionnelle. De forme intentionnelle sensible. Qui fait que, en voyant le rouge, je deviens le rouge. Intentionnellement. Donc, intentionnellement et d'une manière sensible. Il y a un sensible intentionnel. C'est le rouge qui détermine. C'est la couleur, cette forme intentionnelle, qui détermine, qui joue donc le rôle de cause formelle. Elle spécifie ma connaissance. Il faut que le rouge soit actué par la lumière pour spécifier pleinement ma connaissance, autrement il ne spécifie pas. Donc, la cause formelle, c'est bien la cause formelle qui spécifie, c'est la couleur actuée par la lumière. D'autre part, il y a la faculté, la dunamis, qui opère cette vision, la dunamis, donc l'opération, la puissance vitale qui réalise cet acte, cause efficiente. Je vois pour voir. Il y a la joie de voir. Causalité finale. La joie de voir exprime que la vision comme telle possède en elle-même sa propre finalité, un acte immanent. La vision, c'est pour la vision. Je vois pour voir. Je pourrais mettre une autre finalité au point de vue humain en disant je vois pour connaître, mais je peux dire aussi je vois pour voir. Pourquoi ? Parce que cette opération est parfaitement immanente. Et donc, elle implique en elle-même sa propre finalité. Et c'est ce qui explique la joie que j'ai de voir. Un beau spectacle, une joie merveilleuse de voir la lumière du printemps qui commence. Non ben c'est joyeux, c'est merveilleux. La lumière du soir, c'est merveilleux. La joie de voir, causalité matérielle, c'est le divin. Ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est la cause formelle qui elle-même prendra des. Du plus et du moins, tu vois, puisqu'il y a la lumière, la couleur. Et en même temps, cette cause formelle est ce qui finalise, dans le sens que c'est mon opération de vision qui me finalise, puisque c'est cette opération de vision qui possède au plus intime de moi-même. Je peux préciser encore, hein, puisqu'il s'agit d'aller plus loin dans l'ordre de la cause formelle, je peux préciser que il y a des sensibles propres. Les sensibles propres, ce sont ceux qui sont saisis immédiatement et en premier lieu par cette dynamis particulière qu'est la vision. C'est donc les sensibles propres qui spécifient en premier lieu. Les sensibles propres sont propres à chaque sens, caractérisent, si vous voulez, chaque sens. Le sens de la vision est fait pour la lumière et la couleur. Par ma vision, je ne sens pas le point de vue du son. Par la vision, je ne sens pas le point de vue de l'odorat. Par la vision, je ne sens pas le point de vue de la chaleur, sauf si, justement, ce que je vois me chauffe. Alors, je peux avoir chaud dans l'œil. C'est évident qu'il peut y avoir chaud dans l'œil, puisqu'il y a un organe qui implique un certain toucher, et je peux avoir chaud dans l'œil. Attention, précise, ça me donne trop chaud. Et puis, si on vous donne un bon coup de poing dans l'œil, vous voyez 36 000 chandelles. Donc, vous avez chaud à ce moment-là. Donc, il peut y avoir le sensible propre qui est caractéristique de chaque sens. Et puis, vous distinguez les sensibles communs. C'est là le problème se pose. Les sensibles communs sont saisis par divers sens. Quels sont les sensibles communs? Ils sont cinq. Ça, il faut les savoir. Les sensibles communs, c'est le continu, la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos et la figure. Ils sont cinq. Bien, prenez le mouvement. C'est très facile de comprendre que le mouvement, vous pouvez toucher le mouvement. Quand vous mettez votre doigt sur une roue qui tourne à toute vitesse, vous touchez le mouvement. Vous pouvez voir le mouvement. Vous pouvez entendre le mouvement. Vous pouvez goûter le mouvement. Ça tourne trop vite dans votre bouche. Vous pouvez goûter le mouvement, c'est sûr. Et vous pouvez sentir le mouvement. Une odeur qui est très très forte, elle s'éloigne. Ça pacifie. Elle arrive, une force, elle s'envole le plus vite possible. C'est vrai, on sent de cinq manières différentes le mouvement. De cinq manières différentes, vous sentez le repos. De cinq manières différentes, vous pouvez sentir le continu et le nombre. Et la figura. C'est très curieux, ça. Donc, à travers les sensibles propres, j'atteins un autre sensible qui est commun aux autres sens. J'atteins un autre sensible qui est senti, qui est le sensible commun, mais qui est senti, qui est toujours senti à travers un autre. N'est-ce pas? Bon. Ça, c'est la manière habituelle dont on regarde les sensibles propres et les sensibles communs. Je peux me poser la question maintenant, y a-t-il un lien, je crois que ça rejoint la question posée, y a-t-il un lien particulier entre le sens commun et le sensible commun? Est-ce que le sens commun va-t-il saisir directement le sensible commun? Alors à ce moment-là, le sensible commun ne serait plus le sensible commun. Il serait le sensible propre du sens commun. Il serait le sensible propre du sens commun. Alors est-ce que je peux dire ça? Je crois que le sens commun est toujours à travers la sensation. Donc à travers la sensation, à travers diverses sensations, je saisis le sensible propre et je saisis le sensible commun. Je ne pose pas le sens commun à cause des sensibles communs. Je le pose à cause de la conscience, à cause du rapport. Je ne le pose pas à cause de... Ce n'est pas nécessaire. Alors, qui a un lien? C'est évident, puisqu'il est présent dans les sensations. Le lien que je vais voir, moi, qui va m'intéresser beaucoup plus, c'est avec l'imagination. Mais je ne crois pas qu'on puisse préciser quelque chose de nouveau en regardant le lien entre le sens commun et les sensibles communs. Il faut faut simplement savoir, c'est que les sensibles communs sont toujours saisis à travers les sensibles propres. Sont comme, si vous voulez, le support des sensibles propres. Et bien là, il y aura la troisième distinction, le sensible per accidens, qui est le sujet. Pierre. Pierre, je le vois, il est habillé de gris. Je le vois. Pierre, je le vois, il est gros. Alors, si je le vois, il est gros. Il pèse tant de kilos. Alors, si je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Je le vois, il est gros. Sensible commun, la grosseur. Parce que vous la touchez. Pas le petit tonneau. Qui, chez les charismatiques, font en un instant 30 kilos. Non, c'est quand même quelque chose. C'est extraordinaire. Ça fait du flottement. Et là, c'est sensible commun, ça. Un sensible commun qui passe au sensible propre, au sensible commun, je vois, il est gros. Parce que vous ne sentez pas la grosseur d'une certaine manière. Vous la voyez, vous la touchez, vous pouvez l'entendre. Oui, mais ça fait beaucoup plus de bruit dans le déplacement. C'était chiant. En fonction du déplacement, ça s'entend. Un bolide, ça s'entend. C'est quelque chose d'assez impressionnant de voir ça. Et là, on peut l'entendre, on est habitué au corridor, au déplacement de chacun. Ah, ces petits tonneaux qui roulent. Alors, c'est sensible commun, ça. Les sensibles communs saisis à travers les sensibles propres. Alors, ça, c'est les sensibles communs saisis. Bon, ce n'est pas directement le sens commun. Le sens commun donne la conscience, donne le rapport, dans le discernement des divers sensibles propres. Comment je dirais? Vous voyez? Bon. Pas d'autres questions? On peut avancer? Je n'ai pas d'autre chose à dire aux sensibles communs. C'est très peu développé, c'est sans doute un sens, c'est quelque chose de très intéressant à noter, et je crois qu'on doit le maintenir. On doit maintenir le sens commun. Oui?
Est-ce que ce ne serait pas le sens commun qui nous donnerait le sens du conditionnement, enfin, qui ferait la synthèse de tous les sens?
Il fait la synthèse des sens, c'est sûr qu'il fait la synthèse des sens, mais vous voyez, le conditionnement sera par rapport aux sensibles propres, aux sensibles per accidens. Parce que le sensible comme tel, quand je saisis le sensible, hein, le sensible comme tel, bon, contact direct, immédiat. Les sensibles communs, c'est les sensibles du conditionnement. Ça, c'est sûr. Tous mes sensibles propres sont conditionnés par les sensibles communs, par la quantité. Les sensibles communs, c'est la quantité. Le seul sensible commun qualitatif, c'est la figura. Mais c'est la quantité. Or, la quantité conditionne. Vous voyez ? Alors là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas le sensible commun, c'est pas le sens commun qui nous donne le sens du conditionnement. Le conditionnement m'est donné à travers les sensibles communs, que je perçois à travers tous les sens. Et je ne saisirai parfaitement qu'il est le conditionnement, le pose ou le conditionnement, qu'à partir de l'intelligence. Oui. Mais c'est vrai que c'est une relation avec le conditionnement à cause de la quantité. Bon. Une fois que j'ai posé ce sens commun, je vois que maintenant, il s'agit d'essayer. Et ceci, c'est le même degré de connaissance. Sensation, sens commun. Il y a un nouveau type de connaissance qui est l'imagination, la fantasia. Je vous ai déjà dit, la fantasia, l'imagination, elle est étudiée par Aristote d'une manière remarquable. C'est très intéressant de regarder ça dans Aristote. Pour tous les sens, c'est intéressant. Mais l'imagination, c'est donc livre 3, le point de vue de ce
ce que représente le point de vue des fonctions de l'imagination, chapitre 3. C'est essayer de comprendre comment là nous sommes en présence d'un nouveau type de connaissance sensible. Le fruit de l'imagination, c'est l'image. Vous voyez que nous sommes en présence d'un nouveau type de sensation parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus immanent. Nous portons en nous ces images. Les sensations, nous ne les portons pas en nous. Quand la réalité que nous sentons n'est plus présente, nous ne sentons plus. Mais nous pouvons l'imaginer. Et donc, par l'imagination, nous transportons en nous ce qui nous était donné d'une manière éphémère ou précaire ou toute relative à la réalité physique. Puisque je ne peux voir l'écarlate de la rose que si elle est présente. Dès qu'elle disparaît, je ne la vois plus. Mais je peux me l'imaginer. Et c'est ce que je fais habituellement. On s'imagine les diverses sensations que nous avons reçues. C'est pour ça que l'imagination provient des sensations. L'imagination ne me donne jamais un contact direct avec la réalité. Par les sensations, je suis en contact direct avec les réalités physiques. Et par le sens commun, je suis, puisque le sens commun est lié aux sensations, je suis dans ce contact direct avec les réalités sensibles. Tandis que l'imagination ne me met pas en contact direct avec ces réalités sensibles. Par le point de vue de l'imagination, au contraire, je porte en moi une image qui provient des sensations, une image qui est le fruit de ces sensations. Je porte en moi ces images qui proviennent des sensations. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre un peu ce que représente cette image, fruit de l'imagination, qui provient de l'imagination et qui est en dépendance des sensations. C'est pour ça qu'Aristote dira toujours à propos de l'imagination que l'imagination provient du mouvement. C'est quelque chose qui est dans le mouvement même des sensations. Et elle prend naissance à partir des sensations. L'imagination, c'est le premier moment de l'immanence parfaite de la connaissance. C'est la grande supériorité de l'imagination sur les sensations. C'est qu'il y a une immanence parfaite. Et par le fait même, c'est la première fois où la connaissance peut atteindre une certaine synthèse. Il y a une certaine synthèse dans l'imagination. Pour qu'il y ait synthèse, il faut que, justement, il y ait une immanence parfaite. Que je puisse porter en moi le point de départ et le terme. Et que je puisse former de nouvelles synthèses. J'unis deux extrêmes qui étaient avant déliés. Et c'est le propre de l'imagination de pouvoir faire cela. Et c'est en fait cela que l'imagination apporte quelque chose qui est tout à fait propre, qui est même unique. Dans la sensation, je ne fais aucune synthèse. La réalité, c'est vers elle que je me réfère. Et je suis tout entier relatif à la réalité que je sens. Tandis qu'au contraire, dans l'imaginaire, dans l'imagination, je forme au-dedans de moi-même certaines synthèses nouvelles. Des synthèses qui sont réalisées dans l'image que je porte. Et l'imagination peut se développer indépendamment de la réalité présente. Donc, il y a une autonomie beaucoup plus profonde du vivant par le point de vue de l'imagination,
une autonomie beaucoup plus profonde que par la sensation. C'est le premier moment d'autonomie de la connaissance. Je peux, par moi-même, le « c'est me verrai », vous voyez, le « c'est me verrai » du vivant, est beaucoup plus grand dans la fantasia. Le « c'est me verrai » ici est présent du côté de la cause efficiente, mais je suis dépendant dans la sensation de la causalité formelle, de la spécification. Je suis dépendant donc de ce qui est autre que moi. Je ne peux pas inventer les sensibles propres. Je les reçois. Et je suis dans une attitude de réceptivité. Vous vous souvenez, je vous avais dit, le premier caractère de la sensation, c'est la réceptivité. Je reçois l'impression de quelque chose qui vient de l'extérieur, d'autre que moi. Tandis que dans l'imagination, le « c'est me verrai » est beaucoup plus parfait, parce que je... Je ne peux pas inventer les sensibles propres. Je les reçois. Et je suis dans une attitude de réceptivité. Vous vous souvenez, je vous avais dit, le premier caractère de la sensation, c'est la réceptivité. Je reçois l'impression de quelque chose qui vient de l'extérieur, d'autre que moi. Tandis que dans l'imagination, le « c'est me verrai » est beaucoup plus parfait, parce que je vais former au-dedans de moi des images qui peuvent très bien n'avoir qu'un fondement lointain dans la réalité. Le fameux exemple des anciens qui étaient au cœur de toute leur imagination, le mont d'or, vous comprenez bien, c'est le mont d'or. On s'imagine ça dans les rêves, n'est-ce pas ? On a une montagne, le mont, puis l'homme, c'est le rimon, alors c'est le mont d'or, c'est la montagne riante, rimon, c'est la montagne riante, c'est la montagne bénie du soleil, comparativement à tous les autres choses, c'est la montagne bénie du soleil, c'est le rimon. Alors ça, c'est pas imaginatif, mais c'est une manière dont on attribue à un lieu, dit. Tandis que la montagne d'or, ça c'est le mont d'or, c'est de fait imaginatif. Je lis deux choses. C'est propre de l'imagination de faire ses synthèses. Et elle fait elle-même ses synthèses, donc elle se détermine elle-même. C'est le premier moment d'une connaissance qui se détermine elle-même. La connaissance imaginative n'est pas une connaissance objective. Elle est subjective, elle est essentiellement subjective. C'est propre de l'imagination, essentiellement subjective. Je me détermine moi-même dans l'image. C'est très curieux cela. Vous voyez, c'est le pôle subjectif. C'est toujours très intéressant de voir le premier pôle objectif de la sensation. La sensation est essentiellement objective comme connaissance. Et l'imagination est essentiellement subjective. Il dépend d'un autre, c'est sûr, il dépend de la sensation. D'une certaine manière, l'imagination n'invente rien, elle a tout reçu, mais l'organise comme elle veut. Elle fait des liens comme elle veut. Elle fait de nouveaux rapports. Qui ces rapports ne sont pas dans la réalité, mais ces rapports, elle se les donne elle-même. Alors, comment l'imagination peut-elle faire ça ? Vraiment, le type d'une nouvelle connaissance et d'une connaissance qui n'est pas du tout la sensation et qui pourtant dépend de la sensation. L'imagination dépend de la sensation. Mais elle a une autre chose. Alors, c'est là où je crois que c'est très important de saisir que le propre de l'imagination est d'inverser l'ordre des sensibles propres et des sensibles communs. Et ceci explique comment l'imagination peut alors se donner à elle-même de nouveaux objets, de nouvelles images. Vous voyez, l'imagination n'est pas du tout un reflet du monde à l'extérieur. L'imagination, c'est au contraire la transformation que je fais du monde extérieur. J'imagine, tout de suite, dès que je vois, j'imagine. Et c'est pour ça que j'ai tellement de peine de rester objectif. Et tellement de peine de rester objectif, parce que justement, ce n'est pas du tout le reflet. Si l'imagination était le reflet des réalités extérieures, alors à ce moment-là, je n'aurais qu'à regarder, plaque photographique. Ce n'est pas d'une plaque photographique, où il y a un reflet de tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur, au-dedans de moi-même, non. Tout est changé. Alors c'est là où il faut essayer de comprendre ce que c'est qu'une image. Les rêves. Vous savez très bien que les rêves sont étudiés aujourd'hui par les psychanalystes. Les psychanalystes étudient les rêves. Et ils font cette constatation, qui est intéressante à noter, que plus le malade est malade, plus les rêves sont loin des sensibles propres. Et quand le malade redevient plus... Le malade vit dans l'imaginaire. C'est le propre de la maladie, c'est de vivre dans l'imaginaire. C'est de ne plus avoir contact direct avec le réel. Un peu comme l'enfant, si vous voulez. L'enfant, il vit dans son monde imaginaire. Et il n'a pas de contact direct avec le réel, il vit dans son monde imaginaire. Et le malade, il vit dans son monde imaginaire, qu'il se donne à lui-même, et qu'il aime de se donner à lui-même. Il n'a pas envie du tout de rejoindre le réel. Alors, il faut comprendre que ce monde imaginaire est un monde premièrement des sensibles communs. Cette chose, il faut le constater, ça, il faut essayer d'étudier ce que c'est qu'une image. Sartre fait ça très bien dans l'imaginaire. Quand il dit qu'il voit une maison, fermant tout de suite les yeux, vous imaginez la maison. Tout de suite. Eh bien, cette maison que vous imaginez, en fermant les yeux, vous imaginez la maison. Habituellement, on ne le fait pas, quoi. Surtout quand on est habitué à un certain réalisme, on reviendra toujours à la réalité, on ouvrira de nouveau les yeux. N'est-ce pas ? Mais si vous voulez vivre un tout petit peu dans un rêve, vous fermez les yeux et puis vous vous laissez le plus possible porter par cette image qui en engendra d'autres, qui en engendra d'autres, et ainsi de suite. Et si vous essayez d'étudier le caractère propre de ces images, à la différence des sensations, c'est que vous voyez que dans l'image, ce qui est le premier, c'est les sensibles communs. Je pourrais dire que les sensibles communs nourrissent en premier lieu l'imagination. Ce n'est pas les sensibles propres qui nourrissent en premier lieu l'imagination. C'est les sensibles communs. Et ça, dans les rêves, dans les cauchemars, c'est très très net. Le propre du cauchemar, c'est justement d'être enlisé dans un mouvement indéfini, un accident de voiture dans un cauchemar. Vous dégringolez, vous dégringolez, petit tonneau, on fait 1, 2, 3, 4, 5, indéfiniment, puis au moment où vous vous réveillez, le cauchemar, c'est quand ça s'arrête, hein. Mais le cauchemar est lui-même dans quelque chose d'infini. Vous vous enlisez indéfiniment, vous ne voyez pas le terme. Vous êtes dans les sensibles communs. Ou c'est la masse énorme qui vous prend. Une éruption. Et c'est le nombre. C'est le continu, c'est le mouvement. Ou un, c'est le repos. Vous êtes enlisé d'une manière telle que le gros chien arrive, vous ne pouvez pas bouger. Et c'est quand le gros chien est sur vous, vous vous réveillez. Mais vous êtes enlisé, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes fixé, et puis tout le monde arrive, C'est très curieux. Vous n'avez qu'à réfléchir sur les images. Vous voyez que les sensibles communs sont premiers dans l'image. Et les sensibles propres sont seconds. Donc c'est pour ça que je dis inversion des sensations. Il y a un domaine très curieux du passage des sensations à l'image. Dans les sensations, c'est les sensibles propres qui sont premiers. Et dans les images, c'est les sensibles communs qui sont premiers. Mais c'est vrai qu'on comprend comment la méthode Vitose est là pour vous empêcher de tomber dans l'imaginaire et de faire passer devant les sensations. Parce que si les sensibles communs l'emportent sur les sensibles propres, vous êtes enfermé dans un monde que vous pouvez vous-même fabriquer. Les sensibles communs, c'est l'indivisible. Les sensibles propres, c'est l'indivisible. C'est donc le passage du divisible et l'invisible, vous voyez. L'invisible, il s'impose à vous comme un invisible. Vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez l'ignorer, mais vous ne pouvez pas le changer. Il s'impose à vous comme quelque chose d'immédiat, quelque chose qui est premier. Tandis que les sensibles communs, l'imaginaire qui se nourrit d'images, de représentations, les sensibles communs, c'est le divisible. Et parce que c'est le divisible, vous pouvez les modifier. Vous pouvez faire des liens selon votre bon plaisir. Et c'est dans ce sens-là que vous pouvez faire mon homme. Par les sensibles communs, pas par les sensibles propres. Mais par les sensibles communs, vous pouvez aligner, réunir, faire des synthèses nouvelles. Ces synthèses sont imaginatives, ne sont pas réelles. Elles sont au niveau des sensibles communs. Votre imagination, elle est en dépendance des sensations. Et elle est pour vous représenter ces images, alors vous rêvez. L'imagination voulue par elle-même, voulue pour elle-même, c'est le rêve. Le rêve éveillé, ou le rêve tout simplement quand on dort. Mais vous restez dans un domaine de représentation. La distraction. Tout d'un coup, vous avez une distraction dans le cours. Hein. Vous êtes dans un rêve. Vous êtes dans une image. Vous n'êtes pas dans la réalité immédiate, parce qu'un cours, on entend la voix, et en entendant la voix, c'est un sensible propre. Et ce sensible propre vous conduit à réfléchir à ce qui doit normalement être la démarche du cours. La distraction vous met en dehors. C'est les sensibles communs. Et c'est les sensibles communs qui règnent dans le domaine de l'imaginaire. C'est très curieux, ça. Parce que ça vous fait comprendre tout de suite la manière toute différente dont les sensations nous enrichissent et l'imaginaire nous enrichissent du côté extension. L'imaginaire nous plonge dans un domaine qui n'est pas le domaine réel, qui n'est pas le domaine de la sensation, qui est un domaine que moi-même je fabrique. La mise en lumière des sensibles communs. Et considérer que ces sensibles communs, je peux les modifier comme je veux, je peux les manier comme je veux. C'est là où donc on va entrer dans un mouvement très difficile à préciser, le mouvement, voyez, du sable mouvant, des sensibles communs, des sensibles per accidens et des sensibles propres. Tout ça est présent dans le domaine de l'imagination. Mais le propre de l'imagination, c'est de pouvoir se couper des sensations. Et à ce moment-là, qu'elle se coupe des sensations, elle donne son ordre propre, son organisation propre. Ce que j'ai quand je me mets à rêver, je me coupe des sensibles propres. Je me coupe de leur source.
Alors à ce moment-là, je peux imaginer comme je veux. C'est pour ça que l'imagination a quelque chose d'infini dans ses constructions. Je construis indéfiniment. Il y a les deux aspects qui me semblent très importants. Cette inversion, et cette inversion permettant toutes les synthèses possibles, et des synthèses infinies. Les sensations sont limitées par le temps. Les sensations sont limitées par le temps, sont limitées aux réalités physiques, sont conditionnées par la réalité physique. L'imagination n'est plus conditionnée par l'univers, par le monde physique, puisque je peux m'enfermer dans mon imaginaire et me représenter indéfiniment tout ce qui me semble intéressant. Je peux construire un monde qui est le monde que j'imagine. Et c'est un monde que j'aime parce que c'est moi qui le fais. Donc c'est un monde qui est mien, quoi, tout simplement. C'est un monde que je fais moi-même, que j'imagine moi-même, que je construis moi-même. Je me meule dans ce monde. Alors il a l'immense avantage, c'est qu'il est purement intentionnel. Donc je ne me heurte jamais. Je ne me heurte jamais. Dans les sensations, je me heurte à l'autre. Tandis que je ne peux pas dire que l'image est autre, elle est mienne. C'est le même. Vous voyez, la philosophie du même et la philosophie de l'autre. Elles prennent naissance à partir de la sensation et à partir de l'imaginaire. L'imaginaire me met en face du même. Et les sensations me mettent en face de l'autre. Alors ça, je crois que c'est les deux pôles très importants de tout le domaine sensible. Par l'imaginaire, je suis dans l'immanence du même. Tandis qu'au contraire, par le point de vue des sensations, j'ai contact de mes limites à l'égard de l'autre. Et parce que j'ai contact des limites à l'égard de l'autre, je vois mes propres limites. Tandis qu'au contraire, dans l'imaginaire, puisque c'est quelque chose qui vient de moi, et quelque chose qui est infini, indéfini, disons plus exactement, c'est indéfini, je peux toujours en ajouter. J'ai l'impression d'un domaine qui n'a plus de limites. Il n'y a pas de limite dans l'imaginaire. Il n'y a pas de limites. C'est en dehors. Et c'est quelque chose qui vient de moi, que je construis en dedans de moi-même.